Crois avec moi ce matin, on va prendre nos Bibles, on va dire ceci, voici ma Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil. Je serai pour toujours et à jamais changé, transformé. Amen. Alléluia. Et juste en passant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste mentionner quand même que la semaine prochaine, l'Église va être vraiment bénie. On va voir un invité spécial, Pasteur Pierre Steele de l'Église de la Bonne Nouvelle à Montréal. Il est pasteur depuis 25 ans et c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années. Donc, il va vraiment être une bénédiction pour l'Église. Vous ne voulez pas manquer ça, donc venez nombreux, amenez des personnes avec vous. Moi, par exemple, je ne serai pas avec vous, malheureusement. Je vais partir mardi pour la France. Je vais aller enseigner à l'école biblique Raymond en France. Et en plus, je vais prêcher à l'église de Nice, Victoire Centre Chrétienne à Nice, dimanche prochain, le matin. Et dans l'après-midi, je vais prêcher dans une autre église africaine, une église congolaise à Nice, dont le pasteur est un ancien élève. Quand j'enseignais à l'école biblique à Nice, il est un des diplômés. Donc, on va là, c'est juste moi qui pars. Donc, priez pour ma famille, ma femme qui reste ici. Et je vais être en train de prier pour vous. Et donc, je vais là dimanche et après ça, je pars lundi pour Pfaffenhoffen dans le nord-est de la France. Je vais faire 4 heures d'enseignement dans une école biblique en Pfaffenhoffen. Et puis, il faut que je fasse un petit tour pour rencontrer le directeur du Centre de formation biblique de l'Europe à Bonn en Allemagne. Donc, ça va être comme 16, je sais pas combien de fois, 16 prédications dans 11 jours, quelque chose comme ça, ou plus que ça même. Donc, priez pour moi, ça va être intense. Mais ça va être bon! Ça va être bon. J'ai hâte. Mais, laisse-moi vous dire que j'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire ici à Drummondville la semaine prochaine avec Pasteur Steer. Et vous allez vraiment aimer lui et son épouse Louise. Donc, ils vont être une grande source de bénédiction. Donc, venez nombreux. J'aimerais vraiment remplir la salle la semaine prochaine et pour que vous puissiez profiter de son ministère. Ça va être super bon. Donc, est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole ce matin? Je sais, on a fait la déclaration. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de parler d'un sujet passionné. En fait, on va parler un peu de la passion de Jésus, de sa mort, de son enterrement, de sa résurrection et qu'est-ce que ça a procuré pour nous. Mais en fait, le titre du message ce matin, c'est « Libérer de nos ennemis ». Est-ce que c'est une bonne nouvelle de savoir que vous êtes libérés de vos ennemis? Alléluia! Quels sont les ennemis dont nous sommes libérés? Donc, il y en a plusieurs, mais il y a 3 ennemis en particulier que nous allons voir aujourd'hui. Et on va voir qu'est-ce que Jésus a fait, l'œuvre que Dieu a fait en Jésus, à travers Jésus, à la croix, et comment Jésus nous a délivrés, il nous a rachetés, il nous a libérés de la mort spirituelle, de la maladie et même de la pauvreté. N'est-ce pas une bonne nouvelle? On pense à toute la souffrance dans ce monde et on sait que on pourrait dire que la plupart des problèmes tombent dans une de ces 3 catégories, n'est-ce pas? Hein? C'est parce que si quelqu'un a des troubles, c'est parce qu'il est mort spirituellement ou parce que des fois il est attaqué dans son corps physique, il n'est pas en forme, il n'est pas en santé, il n'est pas capable de faire qu'est-ce qu'il a besoin de faire ou il n'a pas les ressources ou les finances nécessaires pour faire qu'est-ce qu'il a besoin d'accomplir dans la vie. Mais j'ai une bonne nouvelle. 1 Jean chapitre 3, verset 8 dit ceci. Le Fils de Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui croient dans le Fils de Dieu aujourd'hui? C'est qui le Fils de Dieu? Jésus. Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus est vivant? Pour vrai? Et s'il est vivant, laisse-moi vous dire une chose, il vit pour l'éternité. Et en plus, la Bible dit, Jésus l'a dit lui-même, que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il a dit, quoi? Il est là au milieu d'eux. Donc, c'est-à-dire que Jésus, le vivant, le Christ de Dieu, le Fils de Dieu, et celui qui est éternel, il est là ce matin, n'est-ce pas? Mais le Fils de Dieu a apparu dans un but. C'était quoi son but? Afin de détruire les œuvres du diable. afin de détruire ou anéantir ou rendre inefficaces les œuvres du diable. Savez-vous que deux choses qu'il ne faut jamais oublier, c'est que Dieu est bon. Tout le monde dit Dieu est bon. Dieu est bon, il vous aime, il a un bon plan pour votre vie, il a des bénédictions qu'il veut répandre sur vous, qui sont au-delà de votre capacité de comprendre. Mais laisse-moi vous dire, ça c'est la première chose. Dieu est bon, il vous aime, il a un plan pour votre vie. Mais la deuxième vérité qu'il ne faut jamais oublier, c'est que nous avons aussi un adversaire, le diable. Et le diable, il n'est pas bon. Ça c'est une grande révélation, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui savaient déjà que le diable n'est pas bon? Et que si le Dieu Tout-Puissant, il a un plan pour ta vie, laisse-moi vous assurer que le diable aussi, il a un plan pour ta vie. Et le plan du diable pour ta vie, ce n'est pas un bon plan. Pourtant, le plan de Dieu, c'est un plan extraordinaire. Et on voit que du moment que Adam et Ève ont cédé et ils ont trahi Dieu dans le fond et ils ont obéi à Satan, ils ont péché, le moment même qu'ils ont fait cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert la porte à l'adversaire, ils ont ouvert la porte à l'ennemi. Et trois choses sont passées. En fait, les trois ennemis dont nous parlons aujourd'hui sont entrés. C'est quelque chose. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que avant de pécher, Adam et Ève étaient supposés de vivre éternellement en communion avec Dieu, n'est-ce pas? Dieu les a donné un jardin merveilleux, ils avaient une santé parfaite et ils avaient une provision abondante, n'est-ce pas? On regarde Adam et Ève dans le jardin, ils n'ont pas de soucis, même pas besoin de magasiner pour acheter des vêtements. Même pas besoin de travailler aux sueurs de leur front pour pouvoir manger. Ils vivaient dans un jardin qui était abondant et puis qui portait un fruit extraordinaire et il était capable de se nourrir. De se nourrir. Quelque chose, hein? Hein? C'est pas grave, hein? Ça, c'est le micro qui, partie du micro qui tombe. Il était capable de se nourrir de la provision abondante de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Quel paradis! Quel état merveilleux pour vivre! Mais on connaît l'histoire. À cause du péché, ils ont ouvert la porte à Satan. Satan est devenu le Dieu de ce siècle. Et à cause de cela, la mort est entrée. À cause de cela, la maladie est entrée. Et à cause de cela, la pauvreté est entré dans le monde aussi. Avant le péché, la pauvreté n'existait pas. Avant le péché, la maladie n'existait pas non plus. Et avant le péché, la mort spirituelle n'existait pas pour l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est quand même biblique, c'est vrai. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-vous en accord avec la parole. Mais on regarde ici quelque chose de bien important. On voit qu'il y avait un problème grave. L'homme est dans le trouble. L'homme avait besoin d'un sauveur. L'homme ne pouvait pas se sauver lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son fils, son propre fils, son unique, celui qui a créé le monde, est devenu homme. Il a marché au milieu des hommes. Il était parfait, il n'a jamais péché. Il est devenu un sacrifice parfait. Mais en Galates chapitre 3, verset 13, nous voyons quelque chose de super important que chaque chrétien a besoin de comprendre et saisir. C'est que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés. Vous savez c'est quoi de racheter quelque chose? Hein? Si un homme perd quelque chose et tout d'un coup, il se promène en ville et il voit dans un magasin où il, de comment est-ce qu'on appelle ça, un pawn shop de gage, c'est ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est ça. Mais là, il voit son affaire dans la fenêtre. Ah, ça c'est mon affaire. Quelqu'un de toute évidence, il l'a trouvé, puis là, c'est en vente. Mais le monsieur était obligé de payer pour entrer de nouveau en possession de qu'est-ce qui était à lui avant. Ça c'est plate, n'est-ce pas? Ou quelqu'un qui perd quelque chose, c'est ça, on doit payer pour procurer quelque chose qui nous appartenait auparavant. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il nous a rachetés. La race humaine appartenait à Dieu avant le péché. Nous étions ses enfants. Nous étions en communion avec lui. Mais quand l'homme a péché, Dieu avait besoin de racheter la race humaine. Il avait besoin de payer de nouveau pour quelque chose qui lui appartenait avant. Est-ce que vous me suivez? Et pour payer cela, il fallait payer cher. Il a envoyé son fils. Et ici, ce verset dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, eux pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, maudit en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand Adam et Ève ont péché, ils ont ouvert la porte à la mort, à la maladie et à la pauvreté. Mais Dieu nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique. Et Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et même si tu lirais la loi de Dieu et les malédictions qui sont décrites dans Deutéronome, vous allez voir ces trois choses. Vous allez voir la mort, vous allez voir la maladie et vous allez voir la pauvreté. Ces trois choses font partie de la malédiction de la loi. Mais Jésus est venu pour nous racheter. Il est devenu malédiction afin que nous soyons bénis avec toutes les bénédictions d'Abraham. Jésus a payé très, très, très cher pour que nous soyons bénis. Est-ce que vous êtes là? Alors, qu'est-ce que vous feriez si, mettons que vous voulez donner un cadeau à votre épouse ou à votre enfant, et pendant un grand cadeau, un cadeau énorme, et pendant des mois et peut-être même des années, ou peut-être même des décennies, vous épargnez, vous faites des économies et vous faites tout votre possible pour pouvoir avoir assez de fonds pour bénir ton épouse ou bénir ton enfant. Et finalement, la journée arrive, tu vas acheter la chose et tu es prêt à le présenter à elle ou à lui, mais la personne ne veut rien savoir. Oh, mais ça ne me tente pas vraiment de vivre dans une maison. Je sais que, ou d'avoir une auto, ou d'avoir une belle chose. Je sais que tu as travaillé pendant des années, des années, des années, et finalement tu mords ça, mais non merci, ça ne me tente pas. Savez-vous que ça, c'est un peu qu'est-ce que la race humaine a fait avec le don de Dieu? Jésus est venu, il est mort, il était enterré, il est ressuscité, et il nous offre la vie éternelle, et un grand pourcentage de nos voisins et de notre communauté qui dit « Non merci, ça ne m'étend pas ». Il y en a qui sont dans l'ignorance. Il y a d'autres qui sont aveuglés. Il y a d'autres qui ont carrément rejeté, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas rejeté cette bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais savez-vous qu'il y a d'autres choses qui sont attachées à notre salut? Des fois, on prend une partie de la vérité et on ignore qu'il y a plus. C'est pas juste ça, il y a plus que Dieu nous a offert. Regardons ceci, 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. N'est-ce pas intéressant? Dieu, quand il voulait nous racheter, il ne donnait pas de l'argent, il ne donnait pas de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Tout le monde dit un agneau sans défaut. Savez-vous qu'ici, on voit que la façon que Dieu a voulu racheter l'humanité. Et Dr. Jim Cason, quand il était là il y a un couple de semaines, il parlait de ça. Et ça tombe bien encore aujourd'hui parce que nous allons recevoir la Sainte-Sainte tantôt. Et je veux que vous compreniez la signification de qu'est-ce que nous allons faire. Mais on voit ici que l'homme était perdu, l'homme avait ouvert la porte à l'ennemi, l'homme est en train d'être détruit par les œuvres du diable, et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, et son fils est appelé un agneau sans défaut. Même chose qu'il a fait pour Adam et Ève quand ils ont péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un animal, il a laissé couler le sang, il a vêtu, il a couvert leur nudité avec la peau des animaux. Ça représentait encore un sacrifice, un substitut qui a été tué à la place d'Adam et Ève. Mais voyez-vous que quand Jésus est venu, il est devenu notre substitut. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau sans défaut. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et son sang a été versé pour nous sauver de nos péchés. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament. Rien n'est là par hasard, vous savez, dans la Bible. Et si vous lisez la Bible avec la révélation de votre rédemption, ça va tout changer. Votre perception de Dieu, votre perception des Écritures et vos attentes de lui. Parce que si on regarde Exode 12, par exemple, on voit l'histoire du peuple de Dieu qui sont opprimés par l'ennemi. Dans le naturel, ils sont opprimés par les Égyptiens. Ils sont esclaves. Ils sont forcés à travailler sans avoir les outils nécessaires, sans avoir les ressources nécessaires. Ils sont battus. Ils sont écrasés. Même les bébés, les enfants, tous les mâles sont tués à la naissance. On voit un peuple qui est misérable, un peuple qui est opprimé, un peuple qui sont désespérés, un peuple qui crie à Dieu, « Au secours !» Ça, c'est l'image des Hébreux, des Israélites, avant d'être libérés de leurs ennemis. Et on voit dans la Bible partout que l'Égypte est toujours symbolique du péché. Ça symbolise le péché, ça symbolise l'œuvre du diable. Et c'est la même chose pour nous. Des fois, il y a des personnes qui sont opprimées et n'ont pas assez. Ils sont fatigués, malades, misérables, malheureux, désespérés, opprimés. Est-ce que vous connaissez des personnes comme ça? J'ai une bonne nouvelle. Dieu veut libérer les gens comme ça. Et ici, on va voir comment Dieu a libéré le peuple d'Israël. Il avait un plan. Et son plan était impeccable. Son plan était merveilleux. Et son plan a fonctionné. Le plan que Dieu avait mis en place, c'était de sauver par sa puissance et par son pouvoir de sauver les Israélites en se servant d'un agneau sans défaut. Et regardons ici. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Je vais juste arrêter là pour une minute. Vous savez, Dieu a dit à chaque famille, procurez-vous un agneau, chaque famille. Mais puis, tout le monde, toute l'assemblée va le tuer au même moment, son agneau, OK? Et ça représente aussi que la race humaine, dans le fond, quand Jésus est mort à la croix, c'était tous les péchés de toute la race humaine qui sont tombés sur lui au même moment, n'est-ce pas? Et Jésus est mort pour nos péchés. L'agneau de Dieu est immolé. Mais regardons ceci. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera d'entre les deux soirs. On prendra de son sang, comme on dit son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc, vous voyez deux choses mentionnées à propos de l'agneau. Son sang, comme on dit son sang, et la chair, on dit la chair. Donc, le sang de l'agneau avait un rôle à jouer dans la libération du peuple, et la chair de l'agneau avait un rôle à jouer dans la libération du peuple aussi. Verset 11, Exode 12. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Mais regardons verset 13. Le sang, on dit le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Soulignez cette phrase, « Je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » C'est intéressant que, là on parle de la Pâque, et au moment de la Pâque, les Israélites avaient besoin de tuer l'agneau, prendre le sang et l'appliquer à la porte, parce que quand l'ange destructeur passerait, il verrait le sang, il passerait par-dessus. Le mot « Pâque » en anglais, Hein, même on parle du Pâques, dans la tradition juive, ils parlent de Passover, passer par-dessus. Au lieu de dire Pâques, ils disent passer par-dessus littéralement. N'est-ce pas intéressant? Donc on voit ici que Dieu a dit que bon, mon jugement va passer par-dessus chaque maison où je vois le sang de l'agneau. Si le sang de l'agneau n'est pas appliqué, tous ceux qui sont dans la maison vont perdre la vie du premier-né. OK? La mort va atteindre chaque maison où le sang n'est pas appliqué. Et laissez-moi vous dire que si le sang de l'agneau Jésus-Christ n'est pas appliqué à votre vie, la mort spirituelle va continuer à régner dans votre vie aussi. Est-ce que vous êtes là? Donc là, on voit que Dieu a réglé le problème de la mort. Dans ce cas-là, c'est la mort physique. On sait que quand on parle de Jésus, c'est la mort spirituelle. Mais on voit aussi qu'il a réglé le problème de la santé. Comment ça? Vous allez voir ça dans quelques minutes. Regardons premièrement Exode 3, 21. On va voir qu'il a aussi réglé le problème de l'autre ennemi, qui est la pauvreté. Verset 21, c'est toujours dans la même histoire, le même événement, la Pâque. Les gens vont tuer l'agneau, le sang va être appliqué à la porte de la maison, ils vont manger la chair de l'agneau, et verset 21 dit, « Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous ne partirez point à vide. » N'est-ce pas bon? Donc là, je vais épargner votre vie, sauver de la mort, je vais vous donner la force nécessaire pour quitter, hein, sauver de la maladie, et vous ne partirez pas à vide, vous aurez quelque chose, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas partir dans la pauvreté. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Psaume 105, ça résume encore cet événement dans l'histoire du peuple de Dieu. Enfin, dans les familles d'Égypte, Dieu frappa de mort tous les fils aînés, le plus précieux produit de leur vigueur. Puis, il fit sortir les siens, son peuple, chargé d'argent et d'or. Quand il a fait sortir le peuple de Dieu, ils étaient chargés d'argent et d'or. N'est-ce pas? Est-ce que j'invente ces choses? Oui, c'est vraiment dans la Bible. Et on sait pourquoi, n'oubliez pas. On sait pourquoi ils voulaient avoir cet argent à cet or aussi. C'est parce que Dieu voulait qu'ils utilisent cela pour faire tout ce qui est nécessaire, qui était lié avec le culte à Dieu aussi, pour faire le tabernacle dans les airs et pour finalement construire les choses pour adorer Dieu, n'est-ce pas? Malheureusement, les jeunes plus tard ont vu que leur cœur n'était pas correct et ils se sont servis de cet or et cet argent pour faire un idole à place. Et ça, c'est dangereux. Hein? Donc, n'oubliez pas que quand Dieu veut vous bénir, il veut, on va parler de ça tantôt, je ne veux pas précipiter, c'est dans un but. Le but, c'est de glorifier Dieu. Amen. Donc, ils sont partis, mais pas en vide. Toutes les familles d'Égypte, Dieu frappa de mort tous les derniers, les plus précieux produits de vigueur. Puis, il fit sortir les siens chargés d'argent et d'or dans le tribut. Personne ne traînait les pieds. Donc ça, c'est quelque chose. On lit ça de même, et si on n'arrête pas de penser comme faux, on peut passer à côté d'une vérité intéressante et très importante. On parle d'un peuple nombreux. On parle d'une population grande comme la grande région de Montréal. On parle de millions de personnes, des jeunes et des moins jeunes. On parle des personnes qui ont été opprimées, les esclaves, qui n'étaient peut-être pas le mieux nourris de tout le pays non plus. C'est des personnes qui ont été battues, des personnes qui ont été maltraitées. Et la Bible dit que quand Dieu les a fait sortir, il n'y avait personne dans toute la tribu qui traînait le pied. N'est-ce pas quelque chose? Encore, est-ce que j'invente ces choses ou est-ce que je lis la Bible ce matin? Moi, j'ai hâte de voir ça aujourd'hui. Et vous? Alléluia! Mais on va voir quelque chose d'intéressant. Alléluia! Donc, on voit ici, encore, que les trois ennemis dont nous parlons, la mort, la maladie et la pauvreté, nous avons ici un exemple symbolique de qu'est-ce que Jésus allait faire quelques milliers d'années plus tard. quand il serait venu pour mourir et être ressuscité à notre place, on voit ici que l'agneau de la Pâque a sauvé le peuple de Dieu de la mort, de la maladie et de la pauvreté. Amen. Et qu'est-ce que nous allons voir maintenant? C'est que l'agneau de Dieu, la Bible dit Christ est notre Pâque. Savez-vous que la Bible dit ça dans le Nouveau Testament? Christ, notre Pâque. Tout le monde dit Jésus est notre Pâque. Si Jésus est notre Pâque, il va faire la même chose pour nous que l'agneau de la Pâque a fait pour les Israélites, n'est-ce pas? Je vois dans plusieurs visages, vous avez de la difficulté à croire cela, peut-être. Il y a d'autres que vous avez vu. Wow! Il y a d'autres que vous réfléchissez. C'est correct. Mais laissez le Seigneur. Encore, je vous donne l'image. Je ne peux pas vous donner une révélation. Je peux juste vous présenter la vérité de la parole de Dieu ce matin. Et laissez le Saint-Esprit vous éclaircir. Amen. Hébreux 2, 14 dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, tout le monde dit sang et chair. On voit ces deux éléments encore, n'est-ce pas? Puisque les enfants participent au sang et la chair, il y a également participé lui-même. Ça parle de Jésus. OK? Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la, quoi? Servitude. Est-ce que vous voyez le parallèle ici? On voit les enfants de Dieu qui sont esclaves en Égypte. Ils sont retenus dans la servitude. Ça représente, Égypte représente le péché. Ça représente une vie qui n'est pas régénérée en Jésus-Christ. Et on voit ici que Jésus, il a goûté à la mort, on va voir ça tantôt, qu'il a anéanti celui qui a le pouvoir de la mort, et il a libéré tous ceux qui, par la crainte de la mort, ont été retenus par Satan comme esclaves. Voulez-vous être libéré une fois pour toutes? Une des plus grandes choses dont nous avons besoin, c'est d'être libéré une fois de toutes, pour toute de la crainte de la mort. Si vous avez peur de mourir, laissez-moi vous dire que vous allez avoir de la misère, de la difficulté à recevoir de Dieu. Mais si vous connaissez Jésus, et vous savez que Jésus a vaincu la mort, et que vous n'avez rien à craindre, que même si vous mourrez physiquement, que c'est pas la fin, c'est juste le commencement d'un nouveau chapitre dans votre existence, n'est-ce pas? Il n'y a rien à craindre. Laissez-moi vous dire, la Bible dit que l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Et c'est en voyant l'œuvre de Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau sans défaut, celui qui est notre Pâque. Quand on voit qu'est-ce qu'il a fait pour nous à la croix, et on voit que c'est en parallèle à qu'est-ce que l'agneau a fait pour les Israélites quand ils sont sortis de l'Égypte, ça enlève toutes les peurs et les craintes qu'on pourrait avoir. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Trois choses qu'on va souligner. Deuxième page de vos notes aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il est mort sur la croix? Qu'est-ce qu'il a accompli? Pourquoi est-ce qu'il est allé à la croix? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'être notre substitut? Première chose, Jésus a goûté la mort pour nous. Savez-vous, je suis content de savoir que j'ai un substitut. Est-ce que vous êtes content que Jésus est votre substitut? Alléluia! Il y a un peu de résistance dans la salle. Juste un petit peu. Merci. Marcel est toujours là pour nous encourager, hein? Mais c'est un peu normal. Si vous êtes en train d'entendre des choses que vous n'avez pas vu ça de cette façon, peut-être vous avez eu des enseignements qui disaient le contraire, que Dieu n'est pas forcément bon. Que Dieu ne veut pas forcément vous bénir. Mais là, je suis en train de vous annoncer une bonne nouvelle. Dieu vous aime, et Dieu a envoyé son Fils Jésus, et Jésus est notre Pâque, et Jésus est venu pour goûter à la mort pour nous. Est-ce que je suis en train de dire que nous n'avons plus besoin de mourir physiquement? Non, je ne suis pas en train d'enseigner cela. Ça serait pas correct. Tout le monde ici va mourir un jour, à moins que Jésus revienne et nous enlève avant. Et je suis bien partant pour ça aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient ça? Il se peut, peut-être même cet après-midi. Mais sinon, on sait que tout le monde va mourir. Tout le monde va expérimenter la mort physique un jour. Mais, pourtant, ici on voit quelque chose, que ceux qui sont en Jésus-Christ sont passés de la mort spirituelle et nous sommes nés de nouveau. Qu'est-ce que Éphésiens 2:1 dit? Vous étiez morts dans vos péchés et vos offenses. Mais maintenant, Christ nous a rendus à la vie avec lui. Je suis plus mort spirituellement. Savez-vous c'est quoi la mort? La mort veut dire la séparation. Et quand je suis mort spirituellement, je suis séparé d'avec Dieu. Tous ceux qui... Il y a des gens qui se promènent en ville, mais ils sont morts. Je ne parle pas des zombies non plus. Mais ils sont en vie physiquement, mais spirituellement, leur cœur, leur esprit n'est pas en contact avec le Dieu vivant et ils sont morts spirituellement. Ils sont séparés d'avec Dieu. Ils ont besoin d'être ramenés à Dieu. Et la seule façon de revenir à Dieu, c'est à travers le sacrifice de Jésus. Le sang de l'agneau a été versé pour quoi? Pour nous sauver de la mort. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a goûté. Mais nous voyons Jésus, Hébreux 2:9. Nous voyons Jésus qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur. N'est-ce pas bon de savoir que... Il est mort, mais maintenant il n'est plus mort. En sorte que par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tout. Est-ce que vous savez que c'est amer? Il n'y a pas un bon goût. Il a goûté à la mort pour nous. Mais bonne nouvelle, c'est que moi, je ne vais jamais, jamais, jamais goûter à la mort spirituelle dans le futur. J'ai déjà goûté un peu, j'avais un petit avant-goût. Laisse-moi vous dire ceci. Tous ceux et celles qui sont ici sur la planète Terre, qui ne sont pas encore chrétiens, ils ont eu un avant-goût. Tout le monde dit avant-goût. Ils ont eu un avant-goût de la mort. Et s'ils meurent en étant toujours séparés d'avec Dieu, s'ils meurent dans leur péché, là, ils vont goûter pour vrai la mort. Ils vont pas juste en goûter. Ils vont expérimenter la mort. La deuxième mort, la Bible appelle ça, pour toute l'éternité, séparé avec Dieu pour l'éternité. Mais la bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai eu un avant-goût de la mort parce que j'étais, au moment donné, j'étais pécheur, comme tout le monde. Je marchais pas avec Dieu, je connaissais pas Dieu, j'ai eu un avant-goût et, laisse-moi vous dire, c'est pas bon d'être séparé avec Dieu, c'est pas agréable, vous êtes d'accord avec ça? Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis passé de la mort à la vie. Jésus a goûté à la mort pour moi, et maintenant j'ai la ferme assurance que moi, je ne vais jamais, jamais, jamais plus goûter à la mort spirituelle, et surtout, je ne vais jamais goûter à la deuxième mort qui est les temps de feu. Est-ce que vous êtes vraiment content? C'est pas joli, hein? L'enfer, c'est pas une belle place. C'est hot, mais pas dans ce sens-là, hein? Regardons ceci. Comment est-ce que je peux être sauvé de la mort? 2 Corinthiens 5, 21, c'est parce que j'ai un agneau. L'agneau immolé avant la fondation du monde est venu me sauver. Mon sauveur, mon maître Jésus-Christ, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. De son propre gré, le Créateur du monde, le Fils de Dieu, il a pris sur lui-même nos péchés. Et c'est lui, sur la croix, qui criait, « Oh! » Qu'est-ce qu'il criait? « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Séparé d'avec le Père, quel horreur! Descendre à l'enfer, souffrir pour nous, il est devenu péché. Est-ce qu'il a péché? Jamais. Laissez jamais quelqu'un vous dire que Jésus a péché. Jésus n'a jamais péché. Il est devenu péché. C'est-à-dire qu'il est devenu malédiction. Et Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Et pendant ce temps qu'il était sur la croix, Jésus était maudit. Volontairement, il a reçu ses malédictions en lui-même. Il a payé cher. Et si Jésus a payé, j'ai plus besoin de payer. Alléluia. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Imagine. Hein, quelqu'un m'invite, ou j'invite quelqu'un pour aller au restaurant, et on a un bon repas, et puis la personne, oh, c'est qui va inviter qui aujourd'hui? Hein? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. On va juste trouver un couple de personnes. Hein? Louise va inviter Jocelyne, et puis ils vont aller manger, et puis finalement, Louise dit, bon, mais moi je vais payer pour ça. Donc elle paye la facture. C'est réglé, le compte est réglé. Et puis en quittant le restaurant, quelqu'un demande à Jocelyne, « Et Jocelyne, tu n'as pas payé pour ton repas. » La gérante arrive, « Madame, tu n'as pas payé pour ton repas. » « Non, c'est vrai, je n'ai pas payé, mais elle a payé pour moi. » « Ouais, mais tu n'as pas payé, il faut que tu payes. » Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, « Je m'excuse, madame, mais mon compte est déjà réglé. » J'ai plus besoin de payer en sous. Mon ami a payé. Le compte est réglé. Savez-vous, la prochaine fois que le diable vienne chuchoter dans l'oreille, « Oh, mais regarde, tu as besoin de payer pour ça, payer pour ça, payer pour ça. » Dis, « Non, désolé, mon ami, mon sauveur, mon maître, il a déjà réglé mon compte. » Oui, mais toi, tu n'as pas payé. Non, c'est correct. Mais ça ne serait pas juste de payer deux fois pour la même affaire. Ça serait une injustice. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Jésus a porté les maladies pour nous aussi. Les gens n'ont pas d'habitude de la misère à croire que Jésus a porté nos péchés. Mais quand je dis une chose comme ça, Jésus a porté les maladies pour nous, des fois, ils ont plus de la misère. Mais regardons, c'est pas moi, c'est la Bible. Est-ce que vous croyez, hein? On vous avait dit que c'est la parole inspirée de Dieu, n'est-ce pas? Ésaïe 53, verset 4, dans la Bible française courante dit, « Or, il supportait les quoi? » Il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions, mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Donc, on voit, c'est Jésus qui a porté mes péchés, mais Jésus a aussi porté mes maladies. Allô? Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes... Oh, mais pasteur, ça c'est juste, ça parle pas des maladies physiques, c'est juste les maladies spirituelles. Mais regardons Matthieu 8, 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Et puis, en fait, j'ai manqué une chose dans les notes. C'est marqué qu'il a guéri beaucoup de malades, là, si je regarde les versets précédents. Et regardons bien qu'est-ce qu'il dit. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus vient tout juste de guérir les malades, physiquement, ceux qui sont malades, et il dit, ça c'est pour accomplir la prophétie de Ésaïe qu'on vient de lire, Ésaïe 53. Donc ça se peut pas que c'est juste des choses spirituelles, ça parle vraiment des choses physiques aussi. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia! Donc Jésus, de la même façon que la chair de l'agneau a donné la force aux Israélites qui sont sortis de l'Égypte et personne traînait le pied, la chair de l'agneau, le corps de Jésus-Christ nous donne la guérison dont nous avons besoin aussi. Allô? Et si vous voudriez, je pourrais passer une heure, ou peut-être deux heures, ou peut-être même trois heures, juste à enseigner sur ce point-là. J'ai déjà fait 8 heures d'enseignement juste là-dessus. Donc, je vous donne juste un petit avant-goût. Encore, on voit ici que si Jésus a porté nos maladies, Si Jésus a payé pour ça, nous sommes rachetés de la malédiction de la loi, nous sommes rachetés de la mort spirituelle, nous sommes rachetés de la maladie. Si Jésus a payé, il a réglé le compte, ça ne serait pas juste pour moi d'être obligé de le régler encore. Un peu moins d'enthousiasme quand je dis ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas en train de dire que si jamais, parce que, écoute, moi j'ai eu des luttes. Moi j'ai eu des moments où j'avais besoin de faire confiance au Seigneur. Moi j'ai eu des moments, même depuis que je suis chrétien, que je suis tombé malade. Et laisse-moi vous dire, je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un est malade, c'est parce qu'il est méchant ou il n'est pas bon. Non, ce n'est pas ça. Souvent, c'est ceci. Souvent, mon peuple périsse faute de connaissance. Moi, c'était le cas pour moi. Moi, j'avais la foi pour mon salut, mais j'avais pas aussi autant de foi pour ma guérison. Et il fallait que ça change. Ça m'a pris 2 ans de méditer, d'étudier et de m'enraciner dans la parole de Dieu. J'ai lu 3 fois par jour une longue liste de versets dans la parole de Genèse à Apocalypse. Pendant 2 ans de temps, je me suis plongé dans la parole de Dieu. Pendant 2 ans de temps, 3 fois par jour, à haute voix, je lisais les promesses de la guérison. Et là, je l'ai eu. Personne va me dire que c'est pas dans la rédemption. Allô? Et si vous n'êtes pas encore convaincu, passez 2 ans, 3 fois par jour, pour trouver le contraire, et puis venez me voir. Non, venez me voir si vous voulez tout de suite, ça ne me dérange pas. Peut-être que je peux vous aider. Alléluia. Moi, je crois à la parole, et vous? Donc, regardons. Jésus, notre Pâque, il a goûté à la mort, il a porté nos maladies, et puis troisième chose, Jésus s'est fait pauvre pour nous aussi. Et là, on perd, il y a encore plus des gens qui débarquent. Jésus a porté nos péchés, oui! Je crois. Jésus a porté nos maladies, oui. Jésus s'est fait pauvre pour nous, oui. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis tout simplement en train de lire la Bible, OK? Je vois qu'à la Pâque, en Égypte, Dieu a fait en sorte que le sang les a épargnés de la mort. La chair de l'agneau les a donné la force pour sortir. Et ils ne sont pas sortis de l'Égypte avec les poches vides non plus. Il a donné de quoi? Ils ont dépouillé les Égyptiens. Et ils avaient de l'or, ils avaient de l'argent, ils avaient toutes les choses dont ils avaient besoin. Malheureusement, leur cœur n'était pas correct. Ils sont tous morts dans le désert. Ils ont même fait une idole avec cet argent. C'est pas correct, ça. Vous êtes d'accord? Mais regardons, qu'est-ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 8, 9. Je parle de qu'est-ce que Jésus a fait. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Quand on interprète la Bible, il faut toujours respecter les lois d'interprétation qui disent qu'il faut toujours regarder, considérer et respecter le contexte, n'est-ce pas? Et si tu regardes le contexte de ce verset 2 Corinthiens chapitre 8, le contexte, Paul est en train de donner une exhortation aux Corinthiens d'être généreux, de donner de leur argent, leurs finances pour aider les pauvres. C'est ça le contexte du verset. Donc, ça parle des finances, ça parle d'argent naturel, ça parle pas dans le contexte juste des bénédictions spirituelles ou une richesse spirituelle. Ça parle des biens matériels, OK? Prenez le temps d'aller voir ça et vous allez voir que c'est vrai. Et c'est pourquoi même plus tard, dans le prochain chapitre, il dit ceci, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance, on dit en abondance, pour toute bonne œuvre. » Il y a des gens qui pensent que être pauvre, c'est être pieux. Mais on sait que c'est pas le cas. La pauvreté est à la racine de beaucoup de troubles et beaucoup de problèmes. Combien de guerres ont été déclenchées à cause d'un état de pauvreté dans les pays? Combien, même tout est relié. dans les nations qui sont dans le tiers-monde, on voit la pauvreté extrême, 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 et on voit avec ça la maladie, on voit le crime, on voit toutes sortes d'affaires, n'est-ce pas? Équilibre. Parce que moi, je crois que je suis équilibré sur ce sujet. En fait, je suis extrêmement équilibré. Je suis équilibré dans l'extrême. L'équilibre de cela, c'est que la Bible donne beaucoup d'avertissements concernant l'amour de l'argent. Beaucoup, beaucoup d'avertissements. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Si vous aimez l'argent, on ne peut pas servir Dieu et maman. Vous êtes d'accord? C'est ça le problème. Dieu a promis aux Israélites, je vais vous bénir. Vous allez avoir un pays qui coule avec le lait et le miel, mais faites attention! Deutéronome chapitre 8, vous devrez le lire une fois. En Deutéronome 8, il donne un avertissement. Faites attention que quand vous êtes entrés dans le pays, je paraphrase, et vous mangez bien, et vous vivez dans les maisons que vous n'avez pas construites, vous récoltez des vignes que vous n'avez pas plantées, n'oubliez pas, faites attention de ne pas oublier que c'est l'Éternel qui te donne le pouvoir d'accueillir les richesses pour établir son alliance. Donc, le pouvoir de s'enrichir, bibliquement, ça vient de Dieu. Mais il y a un danger attaché à ça. On peut être béni par Dieu et oublier Dieu, et là, ça devient grave. Et c'est pourquoi même il y a certaines places où les personnes ont dit, dans les proverbes, « Ah, c'est mieux d'avoir juste assez des fois. Si ton cœur n'est pas droit avec Dieu, tu peux être sûr et certain, c'est mieux d'avoir juste assez que plus qu'assez. » Mais si ton cœur est droit, tu peux avoir plus qu'assez parce que vous allez être généreux et partager avec les autres. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia! Donc, Jésus s'est fait pauvre pour nous. Et on voit que Dieu veut nous combler de toutes sortes de grâces. Son plan. Et pour moi, ça, c'est la définition de la prospérité. Les gens qui disent, « Ah, oh, mais c'est quoi ça, la prospérité? » C'est d'avoir 500 autos et 3 maisons sur chaque continent et d'avoir tout l'argent. Non, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui est la prospérité selon Dieu? C'est ça. C'est quand Dieu vous comble de toutes sortes de grâces et que tu possèdes toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins. Vous êtes capable de payer vos factures, de nourrir votre famille, de mettre les vêtements sur le dos de vos enfants, mais vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Quand c'est l'occasion de donner aux pauvres, quand c'est l'occasion d'envoyer un missionnaire en Outre-mer, vous avez de quoi donner. Ça, c'est la prospérité selon Dieu. Amen. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, encore juste en passant. Je lis la Bible. Est-ce que vous aimez la Bible? Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Jésus, notre Pâque, Jésus, l'agneau de Dieu, il a goûté à la mort, il a porté nos maladies, il s'est fait pauvre. Qu'est-ce qu'on doit faire pour vivre dans la lumière de ces vérités? Juste 3 choses, 3 pensées, que je vais vous laisser avec ça juste avant de recevoir la Sainte Cène ce matin. Numéro 1, saisissez la vie. Jésus est mort pour nous, il a goûté à la mort afin que nous puissions recevoir sa vie, n'est-ce pas? Saisissez la vie et marchez dans la puissance de l'Esprit. Si vous êtes vraiment ressuscité avec Christ, vivez comme quelqu'un qui est ressuscité avec Christ. Ne laissez plus le péché régner dans vos corps. Ne laissez plus le péché régner dans vos pensées. Soyez sûr que vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ. Paul a dit à Timothée, en Timothée 6, 12, il a dit ceci, « Combat, le bon combat, saisis la vie éternelle. » Saisis la vie éternelle. Intéressant parce que Timothée avait déjà la vie éternelle en lui. Il était déjà sauvé. Paul n'est pas en train d'exhorter Timothée qui était déjà pasteur d'une grosse église. Des milliers de personnes. Il n'était pas en train de dire, « Timothée, tu as besoin d'être sauvé. Saisis la vie éternelle. » Non. Tu es déjà sauvé. Tu es déjà passé de la mort à la vie. Mais maintenant, saisis la vie par la foi. Saisis la nature de la vie de Dieu en vous. Et marchez dans l'esprit. Parce que si tu marches dans l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia, il y a trop de personnes, trop de chrétiens qui sont sauvés et pardonnés, mais qui marchent sur la terre comme un homme qui est encore mort spirituellement. Donc, saisissez la vie et marchez dans l'Esprit. Romains 8, 2 dit, « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Et oh, j'aimerais vous faire tout un enseignement là-dessus. Mais la Bible nous dit clairement que nous sommes nés de nouveau dans notre esprit. Nous avons la nature divine dans notre cœur. Mais dans nos corps physiques, nous avons une loi qui agit, la loi du péché et de la mort. Et il y a des impulses de la chair, il y a des désirs de la chair qui font en sorte qu'on veut faire des choses qui ne sont pas correctes. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas de quoi je parle? Hein? Tout le monde sait. C'est pourquoi Paul a dit, les choses que je veux faire, je ne fais pas. Les choses que je ne veux pas faire, je le fais. Il y a comme un combat intérieur. Qu'est-ce que je vais faire? Qui va me délivrer? Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que la loi de l'esprit de vie, la vie de Dieu, c'est pas juste l'existence de Dieu, mais c'est la nature même de Dieu. C'est sa personne qui entre dans nous, dans notre cœur. Et quand nous saisissons la vie éternelle qui est en nous, la loi de l'esprit de vie en Christ nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Et Romains 8, 14 dit que si le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, le même esprit va faire quoi? Va vivifier votre corps physique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je suis plus redevable à la chair pour obéir à ses convoitises. Je suis né de nouveau, la vie de Dieu est en moi, la mort spirituelle n'a aucune emprise sur moi, et parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus est en moi, quand mon corps veut faire des choses qui ne sont pas correctes, si j'active cette loi, je ne veux plus le faire. Ça me donne le pouvoir de faire le bien au lieu de faire le mal. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Oh, gloire à Dieu. Regardez. Laisse-moi vous dire, je ne peux pas vous donner le repas au complet. Je vous montre le menu. Lisez Romains 6, 7 et 8 à votre propre gré. Et si vous lisez Romains 6, 7 et 8, vous allez voir la progression de la mort spirituelle, l'importance de présenter son corps à Dieu. Vous allez voir le combat Romains 7 entre la chair et l'esprit. Et en Romains 8, vous allez voir la victoire. Amen. Lisez ça. Ça, c'est juste un petit menu à part. Ça va vous aider. Romains 6, 7, 8. OK. Bon. Deuxième chose. Réclamez la santé et consacrez votre corps à Dieu. Si Jésus est mort, il a goûté à la mort pour moi, je dois vivre pour lui. Je saisis la vie, je marche dans l'esprit. Mais si Jésus a apporté mes maladies, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réclamer la guérison. Ça m'appartient. Ça fait partie de mon héritage en Jésus-Christ. Amen. Et si c'est à moi, je dois la réclamer. Mais pourquoi? Dans quel but? C'est un peu le même principe que l'argent ou la prospérité, les finances. Si on cherche la santé pour la bonne raison, nous allons avoir les bons résultats. Mais si nous cherchons la santé pour les mauvaises raisons, nous n'aurons pas les bons résultats. Il y a un verset qui est très important pour nous de saisir ce matin, c'est ceci. Mais le corps humain, lui, n'est pas fait pour l'immoralité. Allô? Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est quoi? Pour le corps. Dis-moi pas que Dieu s'intéresse seulement à ton esprit. Dieu s'intéresse à ton corps aussi. Un jour, ton corps physique va se racheter à 100%, c'est-à-dire que tout ce qui est mortel va être englouti par ce qui est immortel, et j'ai bien hâte de cette journée-là. Mais entre-temps, on peut quand même jouir des prémices de cette rédemption. On peut quand même faire comme la Bible dit. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'il prie pour lui en loignant de l'huile. Et la prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est pas moi qui ai inventé ça non plus. C'est Dieu qui donne les instructions. Si vous êtes malade, ne dites pas, « Oh, mais acceptez ça, souffrez avec beaucoup de patience et sachez que vous êtes en train d'être purifié par Dieu. » Non, si vous êtes malade, appelez les anciens de l'Église. Et ça presse. Non, ça, j'ai ajouté ça. Ça, c'est pas biblique. Hein? On va effacer cette partie-là. Mais ça presse si vous êtes vraiment dans le besoin. Si vous souffrez, ça presse. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est Jacques qui a dit ça. Jacques a aussi dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. N'est-ce pas? Mais, il a dit aussi dans le même contexte, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire à vos passions. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, quelqu'un qui ne marche pas vraiment avec Dieu, qui n'est pas consacré à Dieu, il est malade, il veut être guéri parce que il y a une grosse partie que je veux assister. Il faut que je sois guéri parce que je veux faire des bêtises. Il faut que je sois en forme pour samedi soir, pour que je puisse faire des bêtises. Ça ne marche pas, est-ce que vous êtes d'accord? Si vous avez la révélation que le corps est pour le Seigneur, et que le Seigneur est pour le corps, ça change tout. Si vous avez la révélation, comme la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez en vous, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, paraphrase encore, si vous avez cette révélation, elle a dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et dans votre esprit. Si vous avez cette révélation, Seigneur, je comprends maintenant que mon corps ne m'appartient pas. Tu as racheté mon être entier, esprit, âme et corps. Tu as payé cher avec le sang de Jésus. Mon corps t'appartient. Est-ce que vous croyez que Dieu fait un bon entretien de ses biens? C'est son corps. Il va le garder en forme et en santé, surtout si vous vous servez de votre corps pour faire sa volonté ici sur la terre. Hein? C'est comme une compagnie de transport. Ils ont tant de camions, ils ont besoin de camions qui fonctionnent. Les moteurs sont en ordre, tout est réparé, c'est fonctionnel comme ça. Quand il y a un job à faire, le camion peut partir, n'est-ce pas? Même chose. Le Seigneur a tant de membres dans son église, mais quand il a un job à faire, il faut que le corps soit prêt à partir pour faire la job. OK. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez Jésus? C'est ça la question. Numéro 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Honorez Dieu avec vos finances et soyez généreux. Si Jésus est notre Pâque, si Jésus a goûté à la mort, s'il a porté nos maladies et s'il s'est fait pauvre pour nous, afin qu'on puisse être enrichi en lui, pourquoi? C'est quoi le but? C'est pour qu'on puisse honorer Dieu avec nos finances. Encore les gens, ils sont souvent nerveux quand on dit le mot « finance » dans une église. Ça ne devrait pas se dire. Non, ça doit se dire parce que, savez-vous quoi? La Bible en parle énormément. Lisez votre Bible. Mais faites attention, souvent la Bible ne dit pas « finance » ou « argent » ou « compte à banque » jamais. Mais ça parle des troupeaux, ça parle des brebis, ça parle des récoltes, ça parle... Quand vous voyez des choses comme ça, n'oubliez pas que les personnes dans une culture d'agriculture, ça représentait leurs ressources, leur vie financièrement, si vous voulez, OK? Mais la Bible en parle beaucoup. Honorez le Seigneur avec les prémices de tous vos revenus, la Bible dit. Mais pourquoi encore? C'est parce que Dieu veut que notre cœur soit 100% dévoué à lui. Et là où est ton trésor, là sera ton cœur. 2 Corinthiens 9, 11 dit, ainsi vous serez vraiment riches. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être vraiment riches? Regarde. Ainsi vous serez vraiment riches de tous les biens spirituels et matériel, et vous pourrez contribuer. Oh! C'est pour ça que Dieu veut nous bénir. Soulignez le mot contribuer. Oh! Oh! Maintenant, je comprends. Vous aurez être vraiment riche de tous les biens spirituels et matériels, et vous pourrez contribuer. Comment? Largement. Largement, franchement. Qu'est-ce que tu veux, Dieu? Est-ce que vous savez qu'est-ce que Dieu veut? Tout. C'est facile. Vous pourrez contribuer largement à faire le bien chaque fois que l'occasion s'en présentera. Et ceux auxquels nous distribuerons vos libéralités feront monter vers Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Oh Père, merci. Tu nous as bénis cette semaine. Merci Seigneur que tu as mis dans le cœur de telle personne qui nous a aidé à payer nos factures, qui nous a aidé avec la nourriture. Vous savez, ça c'est les genres de prières que je veux provoquer. N'est-ce pas? Est-ce que vous voulez provoquer ces genres de prières? Laisse-moi vous poser une question. Combien de personnes est-ce que vous avez provoqué à prier des prêts de reconnaissance dernièrement? C'est bon ça. En tout cas, libérer de nos ennemis, libérer de la mort, libérer de la maladie, libérer de la pauvreté. Laisse-moi vous dire ça, c'est juste un petit avant-goût. Mais Dieu a des bonnes choses pour nous. Et comme Psaume 103 dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. C'est lui qui guérit toutes mes maladies. Et en fait, c'est marqué, c'est lui, plus loin, hein, qui rassasie de bien notre vieillesse. On voit les trois choses encore, n'est-ce pas? Il pardonne mes iniquités, il guérit mes maladies, il remplit de bien ma vieillesse. C'est bon, ça? Alléluia. On va se lever debout ce matin. Et je vais demander, alléluia, aux hommes et femmes et ceux et celles qui vont venir servir la Sainte Cène, de venir et de se préparer. Mais juste avant, je ne sais pas si quelqu'un peut aller dire à Pasteur Tania qu'elle vienne. Alléluia. Depuis quelques semaines, j'ai prêché beaucoup sur l'importance d'être consacré à Dieu. Et de notre responsabilité d'être vraiment, vivre comme un vrai chrétien, de vivre dans la puissance de Dieu. Et ce matin, j'avais à cœur, avant de recevoir la Sainte Cène, de vous exhorter, de vous encourager. J'espère que vous êtes encouragés ce matin. Et peut-être en écoutant cela, vous dites, j'ai pas tout à fait compris ici. Oh, mais il y a quelque chose qui se passe ici, dans mon cœur. Il y a quelque chose qui me dit, waouh, il y a encore plus de vérité à saisir. Il y a encore plus de bénédictions dans ma vie. Il y a encore plus de Dieu à expérimenter dans ma vie. Amen. C'est bon. Alléluia. Donc, si c'est le cas, je vous encourage de prendre le menu que je vous ai donné ce matin. Et de le lire comme il faut et de commander avec foi. Seigneur, je vois maintenant moi-même. Le pasteur l'a prêché. Maintenant, j'ai pris le temps de vérifier, comme les Béréens. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y avait une ville. Les Béréens, la Bible dit qu'ils avaient un cœur plus noble. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient les Écritures à tous les jours pour être certains que tout ce que les apôtres prêchaient était exact et précis. Prenez le temps. Ne voyez pas qu'est-ce que je dis parce que je l'ai prêché. Prenez votre Bible. Allez parcourir les Écritures. Regardez tout ce que Dieu dit à propos de votre rédemption, de Christ notre Pâque, de l'agneau de Dieu qui était immolé avant la fondation du monde. Allez voir et vous allez découvrir que Dieu a un salut qui est si merveilleux et si grand. La Bible nous exhorte de ne jamais négliger un si grand salut. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur, on ne veut pas, Seigneur, je ne veux pas que ça soit juste reçu intellectuellement ce matin. Mais Seigneur, je veux recevoir avec un cœur humble, avec sincérité, la vérité de ta parole. Seigneur, je prie pour chaque homme et chaque femme ici que tu puisses révéler à leur esprit, Seigneur, la vérité que Jésus-Christ a goûté à la mort, il est devenu péché pour nous. Il nous a délivrés de la mort spirituelle. Démontre, Seigneur, et révèle à chaque homme et chaque femme, à chaque enfant que Jésus a porté nos maladies, qui s'est fait pauvre pour nous. Que tu veux prendre soin de nous. Tu veux qu'on soit en bonne santé. Comme 3 Jean 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, la chose la plus importante, c'est que notre âme soit prospère. Donc, avant de recevoir la Sainte Cène, parce que ceci, ça représente l'agneau de Dieu. Le pain que nous allons manger représente la chair de l'agneau par laquelle nous sommes guéris. La coupe que nous allons boire, ça représente le sang de Jésus qui nous sauve de la mort. et en recevant la coupe et en mangeant le pain, on se souvient du sacrifice de Jésus. On se souvient de son alliance. Savez-vous c'est quoi une alliance? Et vous savez que quand on fait une alliance avec quelqu'un, on dit essentiellement tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je te le donne. Et l'autre personne répond, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je te le donne. Aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant, il t'offre la vie éternelle. Et la Bible dit que nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Comment celui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc, quand vous buvez la coupe ce matin, quand vous mangez le pain, rappelez-vous que toutes choses vous appartiennent en Jésus. Et surtout, toutes les choses que nous venons de voir. Liberté de la mort, liberté de la maladie et liberté de la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Mais avant de distribuer la coupe, les coupes et le pain, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, si vous êtes honnête avec vous-même, vous ne savez pas si vous êtes vraiment en alliance avec Jésus aujourd'hui ou non. Parce que la Bible dit ceci, il faut que chaque personne, avant de prendre le repas du Seigneur, s'examine soi-même. Si vous n'êtes pas membre de l'Église ici, ce n'est pas grave, tout le monde est invité à prendre le repas. Aussi longtemps que vous avez vraiment pris une décision personnelle de donner votre cœur à Jésus. Mais ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais donné son cœur à Jésus et qui veut le faire? Je crois que je connais presque tout le monde ce matin. Mais sinon, je vais juste compter à trois. Et si vous avez besoin de donner votre vie à Jésus, levez la main, on va prier pour vous. Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Si tu me renies devant les hommes, je te renierai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de donner sa vie à Jésus? Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous levez la main. Examinez vos cœurs. Peut-être tout le monde ici l'a déjà fait. Mais si vous voulez commencer à distribuer,